4. La caravane en marche. Le lendemain de la première heure, l'intrépide Tartarin et le non moins intrépide prince Grégory, suivis d'une demi-douzaine de portefaix nègres, sortaient de Miliana et descendaient vers la plaine du Chélif par un raidillon délicieux tout ombragé de jasmin, de thuyas, de caroubiers, d'oliviers sauvages, entre deux haies de petits jardins indigènes et des milliers de joyeuses sources vives qui dégringolaient de roche à roche en chantant. Un paysage du Liban. Aussi chargé d'armes que le grand Tartarin, le prince Grégory s'était en plus affublé d'un magnifique et singulier képi tout galonné d'or, avec une garniture de feuilles de chêne brodées du fil d'argent, qui donnait à son Altesse un faux air de général mexicain ou de chef de garde des bords du Danube. Ce diable de képi intriguait beaucoup le Tarasconnais, et comme il demandait timidement quelques explications. « Coiffure indispensable pour voyager en Afrique, » répondit le prince avec gravité, et tout en faisant reluire sa visière d'un revers de manche, il renseigna son naïf compagnon sur le rôle important que joue le képi dans nos relations avec les Arabes, la terreur que cet insigne a seul le privilège de leur inspirer, si bien que l'administration civile a été obligée de coiffer tout son monde avec des képis, depuis le cantonnier jusqu'au receveur de l'enregistrement. En somme, pour gouverner l'Algérie, c'est toujours le prince qui parle. Point n'est besoin d'une forte tête, ni même de tête du tout. Il suffit d'un képi, d'un beau képi, galonné, reluisant, au bout d'une trique comme la toque de Gessler. Ainsi, causant et philosophant, la caravane allait son train. Les portefaix, pieds nus, sautaient de roche en roche avec des cris de singe. Les caisses d'armes sonnaient. Les fusils flambaient. Les indigènes qui passaient s'inclinaient jusqu'à terre devant le képi magique. Là-haut, sur les remparts de Miliana, le chef du bureau arabe, qui se promenait au bon frais avec sa dame, entendant ces bruits insolites et voyant des armes luire entre les branches, crut à un coup de main, fit baisser le pont-levis, battre la générale et mit incontinent la ville en état de siège. Beau début pour la caravane. Malheureusement, avant la fin du jour, les choses se gâtèrent. Des nègres qui portaient les bagages, l'un fut pris d'atroces coliques pour avoir mangé le sparadrap de la pharmacie. Un autre tomba sur le bord de la route ivre-mort d'eau-de-vie camphrée. Le troisième, celui qui portait l'album de voyage, séduit par les dorures des fermoirs et persuadé qu'il enlevait les trésors de la Mecque, se sauva dans le Zakar à toutes jambes. Il fallut aviser. La caravane fit halte et tint conseil dans l'ombre trouée d'un vieux figuier. « Je serais d'avis, dit le prince en essayant, mais sans succès, de délayer une tablette de pemmican dans une casserole perfectionnée à triple fond, je serais d'avis que ce soir nous renoncions aux porteurs nègres. » Il y a précisément un marché arabe tout près d'ici. Le mieux est de nous y arrêter et de faire emplette de quelques bourricots. Ah non, 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 pas de bourricots, interrompit vivement le grand Tartarin que le souvenir de Noirot avait fait devenir tout rouge. Et il ajouta à l'hypocrite: comment voulez-vous que de si petites bêtes puissent porter tout notre attirail? Le prince sourit. Ah, ce qui vous trompe, mon illustre ami. Si maigre et si chétif qu'il vous paraisse, le bourricot algérien a les reins solides. Il le faut bien pour supporter tout ce qu'il supporte. Demandez plutôt aux Arabes. Voici comment ils expliquent notre organisation coloniale. En haut, disent-ils, il y a Moussi le gouverneur, avec une grande trique qui tape sur l'état-major. L'état-major, pour se venger, tape sur le soldat. Le soldat tape sur le colon tape sur l'arabe tape sur le nègre tape sur le juif tape à son tour sur le bourricot. Et le pauvre petit bourricot, n'ayant personne sur qui taper, tend les chines et porte tout. Vous voyez bien qu'il peut porter vos caisses. C'est égal, reprit Tartarin de Tarascon. Je trouve que pour le coup d'œil de notre caravane, des ânes ne feraient pas très bien. Je voudrais quelque chose de plus oriental, ainsi par exemple, si nous pouvions avoir un chameau. Tant que vous en voudrez, fit l'Altesse. Et l'on se mit en route pour le marché arabe. Le marché se tenait à quelques kilomètres sur les bords du Chélif. Il y avait là 5 ou 6 000 Arabes en guenilles, grouillant au soleil et trafiquant bruyamment au milieu des jarres d'olives noires, des pots de miel, des sacs d'épices et de cigares en gros tas. De grands feux où rôtissaient des moutons entiers, ruisselant de beurre, des boucheries en plein air où des nègres tout nus, les pieds dans le sang, les bras rouges, dépeçaient avec de petits couteaux des chevreaux à une perche. Dans un coin, sous une tente rapetassée de 1000 couleurs, un greffier maure avec un grand livre et des lunettes. Ici, un groupe, des cris de rage. C'est un jeu de roulette installé sur une mesure à blé et des kabyles qui s'éventrent autour. Là-bas, des trépignements, une joie, des rires. C'est un marchand juif avec sa mule qu'on regarde se noyer dans le chélif. Puis des scorpions, des chiens, des corbeaux et des mouches. Des mouches! Par exemple, les chameaux manquaient. On finit pourtant par en découvrir un dont les Mozabites cherchaient à se défaire. C'était le vrai chameau du désert, le chameau classique, chauve, l'air triste, avec sa longue tête de bédouin et sa bosse qui, devenue flasque par suite de trop longs jeûnes, pendait mélancoliquement sur le côté. Tartarin le trouva si beau qu'il voulut que la caravane entière montât dessus. Toujours la folie orientale. La bête s'accroupit, on sangla les mâles. Le prince s'installa sur le cou de l'animal. Tartarin, pour plus de majesté, se fit hisser tout en haut de la bosse entre deux caisses. Et là, fier et bien calé, saluant d'un geste noble tout le marché accouru, il donna le signal du départ. Tonnerre, si ceux de Tarascon avaient pu le voir! Le chameau se redressa, allongea ses grandes jambes à nœuds et prit son vol. Oh, stupeur! Au bout de quelques enjambées, voilà Tartarin qui se sent pâlir. Et l'héroïque Chéchia, qui reprend une à une ses anciennes positions du temps du zouave. Ce diable de chameau, tangué comme une frégate. Prince, prince, murmura Tartarin tout blême, et s'accrochant à l'étoupe sèche de la bosse. Prince, descendons, je sens que je vais faire bafouer la France. Va te promener. Le chameau était lancé et rien ne pouvait plus l'arrêter. 4 000 Arabes couraient derrière, pieds nus, gesticulant, riant comme des fous et faisant luire au soleil 600 000 dents blanches. Le grand homme de Tarascon dut se résigner. Il s'affaissa tristement sur la bosse. La Chéchia prit toutes les positions qu'elle voulut, et la France fut bafouée. 5. L'affût du soir dans un bois de laurier rose. Si pittoresque que fut leur nouvelle monture, nos tueurs de lions durent y renoncer par égard pour la Chéchia Et on continua donc la route à pied, comme devant, et la caravane s'en alla tranquillement vers le sud par petites étapes, le Tarasconnais en tête, le Monténégrin en queue, et dans les rangs, le chameau avec les armes. L'expédition dura près d'un mois. Pendant un mois, cherchant des lions introuvables, le terrible Tartarin erra de douar en douar dans l'immense plaine du Chélif, à travers cette formidable et cocasse Algérie française, où les parfums du vieil Orient se compliquent d'une forte odeur d'absinthe et de caserne. Abraham et Zazou mêlés, quelque chose de féerique et de naïvement burlesque, comme une page de l'Ancien Testament racontée par le sergent Laramé ou le brigadier Pitou. Curieux spectacle pour des yeux qui auraient su voir. Un peuple sauvage et pourri que nous civilisons en lui donnant nos vices. L'autorité féroce et sans contrôle de bachagas fantastiques qui se mouchent gravement dans leur grand cordon de la Légion d'honneur et pour un oui ou pour un non font bâtonner les gens sur la plante des pieds. La justice sans conscience de cadi à grosses lunettes, tartuffe du Coran et de la loi, qui rêvent de 15 août et de promotion sous les pelmes, et vendent leurs arrêts comme Ésaü son droit d'aînesse pour un plat de lentilles ou de couscous au sucre. Des caïds libertins et ivrognes, anciens brosseurs d'un général Youssouf quelconque, qui se saoule de champagne, avec des blanchisseuses mahonnaises, et font des ripailles de moutons rôtis pendant que devant leur tente toute la tribu crève de faim et dispute aux lévriers les rogatons de la ribote seigneuriale. Puis, tout autour, des plaines en friche, de l'herbe brûlée, des buissons chauves, des maquis de cactus et de lentisques, le grenier de la France. Grenier vide de grains, hélas, et riche seulement en chacal et en punaise. Des douars abandonnés, des tribus effarées qui s'en vont sans savoir où, fuyant la faim et semant des cadavres le long de la route. De loin en loin, un village français avec des maisons en ruine, des champs sans culture, des sauterelles enragées qui mangent jusqu'aux rideaux des fenêtres, et tous les colons dans leur café en train de boire de l'absinthe en discutant des projets de réforme et de constitution. Voilà ce que Tartarin aurait pu voir s'il s'en était donné la peine. Mais tout entier à sa passion léonine, l'homme de Tarascon allait droit devant lui sans regarder ni à droite ni à gauche, l'œil obstinément fixé sur ces montagnes imaginaires qui ne paraissaient jamais. Comme la tente à Brie s'entêtait à ne pas s'ouvrir et les tablettes de pemmican à ne pas fondre, la caravane était obligée de s'arrêter matin et soir dans les tribus. Partout, grâce au képi du prince Grégory, nos chasseurs étaient reçus à bras ouverts. Ils logeaient chez les agas, dans des palais bizarres, grandes fermes blanches sans fenêtres, où l'on trouve pêle-mêle des narguilés, des commodes en acajou, des tapis de Smyrne et des lampes modérateurs, des coffres de cèdre pleins de sequins turcs et des pendules à sujet style Louis-Philippe. Partout on donnait à Tartarin des fêtes splendides, des diffas, des fantasias. En son honneur, des goums entiers faisaient parler la poudre et luire leurs burnous au soleil. Puis, quand la poudre avait parlé, le bonaga venait et présentait sa note. C'est ce qu'on appelle l'hospitalité arabe. Et toujours pas de lion, pas plus de lion que sur le pont neuf. Cependant, le Tarasconnais ne se décourageait pas. S'enfonçant bravement dans le sud, il passait ses journées à battre le maquis, fouillant les palmiers nains du bout de ses carabines et faisant « frrrt, frrt, à chaque buisson. Puis, tous les soirs, avant de se coucher, un petit affût de 2 ou 3 heures. Peine perdue, le lion ne se montrait pas. Un soir pourtant, vers les 6 heures, comme la caravane traversait un bois de lentisques tout violet, où de grosses cailles alourdies par la chaleur sautaient çà et là dans l'herbe, Tartarin de Tarascon crut entendre, mais si loin, mais si vague, mais si émietté par la brise, ce merveilleux rugissement qu'il avait entendu tant de fois là-bas à Tarascon, derrière la baraque mitaine. D'abord, le héros croyait rêver. Mais au bout d'un instant, lointain toujours, quoique plus distinct, les rugissements recommencèrent, et cette fois, tandis qu'à tous les coins de l'horizon on entendait hurler les chiens d'Édouard, secoué par la terreur et faisant retentir les conserves et les caisses d'armes, la bosse du chabot frissonna. Plus de doute, c'était le lion. Vite, vite à l'affût, pas une minute à perdre. Il y avait tout juste près de là un vieux marabout, un tombeau de saint, à coupole blanche, avec les grandes pantoufles jaunes du défunt déposées dans une niche au-dessus de la porte, et un fouillis d'ex-voto bizarre, pan de bournous, fil d'or, cheveux roux, qui pendait le long des murailles. Tartarin de Tarascon y remit à son prince et à son chameau, se mit en quête d'un affût. Le prince Grégory voulait le suivre, mais le Tarasconnais s'y refusa. Il tenait à affronter le lion seul à seul. Toutefois, il recommanda à son Altesse de ne pas s'éloigner, et par mesure de précaution, il lui confia son portefeuille, un gros portefeuille plein de papiers précieux et de billets de banque qu'il craignait de faire écornifler par la griffe du lion. Cela fait, le héros chercha son poste. 100 pas en avant du marabout, un petit bois de laurier rose tremblait dans la glace du crépuscule au bord d'une rivière presque à sec. C'est là que Tartarin vint s'embusquer, le genou en terre, selon la formule, la carabine au poing et son grand couteau de chasse planté fièrement devant lui dans le sable de berge. La nuit arriva. Le rose de la nature passa au violet, puis au bleu sombre. En bas, dans les cailloux de la rivière, luisait comme un miroir à main une petite flaque d'eau claire. C'était l'abreuvoir des fauves. Sur la pente de l'autre berge, on voyait vaguement le sentier blanc que leurs grosses pattes avaient tracé dans les lentisques. Cette pente mystérieuse donnait le frisson. Joignez à cela le fourmillement vague des nuits africaines, branches frôlées, pas de velours d'animaux rôdeurs, aboiement grêle des chacals, et là-haut, dans le ciel, à 100, 200 mètres, de grands troupeaux de grues qui passent avec des cris d'enfants qu'on égorge. Vous avouerez qu'il y avait là de quoi être ému. Tartarin l'était, il l'était même beaucoup. Les dents lui claquaient, le pauvre homme. Et sur la garde de son couteau de chasse planté en terre, le canon de son fusil rayé sonnait comme une paire de castagnettes. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a des soirs où on n'est pas en train, et puis où serait le mérite si les héros n'avaient jamais peur? Eh bien oui, Tartarin eut peur, et tout le temps encore. Néanmoins, il tint bon 1 heure, 2 heures, mais l'héroïsme a ses limites. Près de lui, dans le lit desséché de la rivière, le Tarasconnais entend tout à coup un bruit de pas, des cailloux qui roulent. Cette fois, la terreur l'enlève de terre. Il tire ses deux coups au hasard dans la nuit et se replie à toutes jambes sur le marabout, laissant son coutelas debout dans le sable comme une croix commémorative de la plus formidable panique qui ait jamais assailli l'âme d'un dompteur d'hydre. « À moi, Prince, le lion !» Un silence. « Prince, Prince, êtes-vous là ?» Le prince n'était pas là. Sur le mur blanc du marabout, le bon chameau projetait seul au clair de lune l'ombre bizarre de sa bosse. Le prince Grégory venait de filer en emportant portefeuille et billets de banque. Il y avait un mois que Son Altesse attendait cette occasion. 6. Enfin. Le lendemain de cette aventureuse et tragique soirée, lorsque, au petit jour, notre héros se réveilla et qu'il eut acquis la certitude que le prince et le magot étaient réellement partis sans retour, lorsqu'il se vit seul dans cette petite tombe blanche, trahi, volé, abandonné en pleine Algérie sauvage, avec un chameau à bosse simple et quelques monnaies de poche pour toute ressource, alors, pour la première fois, le Tarasconnais douta. Il douta du Monténégro, il douta de l'amitié, il douta de la gloire, il douta même des lions. Et, comme le Christ à Gethsémani, le grand homme se prit à pleurer amèrement. Or, tandis qu'il était là, pensivement, assis sur la porte du marabout, sa tête dans ses deux mains, sa carabine entre ses jambes et le chameau qu'il regardait. Soudain, le maquis d'en face s'écarte et Tartarin, stupéfait, voit paraître à 10 pas devant lui un lion gigantesque s'avançant la tête haute et poussant des rugissements formidables qui font trembler les murs du marabout, tout chargé d'oripeaux et jusqu'aux pantoufles du saint dans leur niche. Seul le Tarasconnais ne trembla pas. « Enfin » cria-t-il en bondissant la crosse à l'épaule. Pam, pam, c'était fait. Le lion avait 2 balles explosives dans la tête. Pendant une minute, sur le fond embrasé du ciel africain, ce fut un feu d'artifice épouvantable de cervelle en éclats, de sang fumant et de toisons rousses éparpillées. Puis tout retomba et Tartarin aperçut 2 grands nègres qui couraient sur lui, la matraque en l'air. Les 2 nègres de Miliana. Oh misère! C'était le lion apprivoisé, le pauvre aveugle du couvent de Mohammed que les balles tarasconnaises venaient d'abattre. 7 fois, par Mahom, Tartarin l'échappa belle. Ivre de fureur fanatique, les 2 nègres quêteurs l'auraient sûrement mis en pièces si le dieu des chrétiens n'avait envoyé à son aide un ange libérateur, le garde champêtre de la commune d'Orléansville, arrivant son sabre sous le bras par un petit sentier. La vue du képi municipal calma subitement la colère des nègres. Paisible et majestueux, l'homme à la plaque dressa procès-verbal de l'affaire, fit charger sur le chameau ce qui restait du lion, ordonna aux plaignants comme aux délinquants de le suivre, et se dirigea sur Orléansville, où le tout fut déposé au greffe. Ce fut une longue et terrible procédure. Après l'Algérie des tribus qu'il venait de parcourir, Tartarin de Tarascon connut alors une autre Algérie, non moins cocasse et formidable, l'Algérie des villes processives et avocatières. Il connut la judiciaire louche qui se tripote au fond des cafés, la bohème des gens de loi, les dossiers qui sentent l'absinthe, les cravates blanches bouchetées de champoraux. Il connut les huissiers, les agréés, les agents d'affaires, toutes ces sauterelles du papier timbré, affamées et maigres, qui mangent le colon jusqu'aux tiges de ses bottes et le laissent déchiqueter feuille par feuille comme un plant de maïs. Avant tout, il s'agissait de savoir si le lion avait été tué sur le territoire civil ou sur le territoire militaire. Dans le premier cas, l'affaire regardait le tribunal de commerce. Dans le second, Tartarin relevait du conseil de guerre et, à ce mot de conseil de guerre, l'impressionnable Tarasconnais se voyait déjà fusillé au pied des remparts ou croupissant dans le fond d'un silo. Le terrible, c'est que la délimitation des deux territoires est très vague en Algérie. Enfin, après un mois de course, d'intrigues, de stations au soleil dans les cours des bureaux arabes, il fut établi que si, d'une part, le lion avait été tué sur le territoire militaire, d'autre part, Tartarin, lorsqu'il tira, se trouvait sur le territoire civil, l'affaire se jugea donc au civil. Et notre héros en fut quitte pour 2500 francs d'indemnité sans les frais. Comment faire pour payer tout cela? Les quelques piastres échappés à la razzia du prince s'en étaient allés depuis longtemps en papiers légaux et en absinthe judiciaire. Le malheureux tueur de Lyon fut donc réduit à vendre la caisse d'armes au détail, carabine par carabine. Il vendit les poignards, les crismalets, les casse-têtes. Un épicier acheta les conserves alimentaires. Un pharmacien, ce qui restait du sparadrap. Les grandes bottes elles-mêmes y passèrent et suivirent la tente abri perfectionnée chez un marchand de bric-à-brac qui les éleva à la hauteur de curiosités cochin-chinoises. Une fois tout payé, il ne restait plus à Tartarin que la peau du lion et le chameau. La peau, il l'emballa soigneusement et la dirigea vers Tarascon, à l'adresse du brave commandant Bravida. Nous verrons tout à l'heure ce qu'il advint de cette fabuleuse dépouille. Quant au chameau, il comptait s'en servir pour regagner Alger, non pas en montant dessus, mais en le vendant pour payer la diligence, ce qui est encore la meilleure façon de voyager à chameau. Malheureusement, la bête était d'un placement difficile et personne n'en offrit un liard. Tartarin, cependant, voulait regagner Alger à toute force. Il avait hâte de revoir le corselet bleu de Baïa, sa maisonnette, ses fontaines, et de se reposer sur les trèfles blancs de son petit cloître en attendant de l'argent de France. Aussi notre héros n'hésita pas, et navré mais point abattu, il entreprit de faire la route à pied, sans argent, par petite journée. En cette occurrence, le chameau ne l'abandonna pas. Cet étrange animal s'était pris pour son maître d'une tendresse inexplicable, et le voyant sortir d'Orléansville, se mit à marcher religieusement derrière lui, réglant son pas sur le sien, et ne le quittant pas d'une semelle. Au premier moment, Tartarin trouva cela touchant. Cette fidélité, ce dévouement à toute épreuve, lui allait au cœur d'autant que la bête était commode et se nourrissait avec rien. Pourtant, au bout de quelques jours, le Tarasconnais s'ennuya d'avoir perpétuellement sur les talons ce compagnon mélancolique qui lui rappelait toutes ses mésaventures. Puis, l'aigreur s'en mêlant, il lui en voulut de son air triste, de sa bosse, de son allure d'oie bridée. Pour tout dire, il le prit en grippe et ne songea plus qu'à s'en débarrasser. Mais l'animal tenait bon. Tartarin essaya de le perdre, le chameau le retrouva. Il essaya de courir, le chameau courut plus vite. Il lui criait « Va-t'en !» en lui jetant des pierres. Le chameau s'arrêtait, il le regardait d'un air triste, puis au bout d'un moment, il se remettait en route et finissait toujours par rattraper Tartarin. Tartarin dut se résigner. Pourtant, lorsque, après 8 grands jours de marche, le Tarasconnais poudreux, harassé, vit de loin étinceler dans la verdure les premières terrasses d'Alger, lorsqu'il se trouva aux portes de la ville, sur l'avenue bruyante de Mustapha, au milieu des zouaves, des biscristes, des mahonaises, tous grouillant autour de lui et le regardant défiler avec son chameau, pour le coup, la patience lui échappa. « Non, oh non, dit-il, c'est pas possible, je ne peux pas entrer dans Alger avec un animal pareil. » Et profitant d'un encombrement de voiture, il fit un crochet dans les champs et se jeta dans un fossé. Au bout d'un moment, il vit au-dessus de sa tête, sur la chaussée de la route, le chameau qui filait à grandes enjambées, allongeant le cou d'un air anxieux. Alors, soulagé d'un grand poids, le héros sortit de sa cachette et rentra dans la ville par un sentier détourné qui longeait le mur de son petit enclos. Cette catastrophe sur catastrophe. En arrivant devant sa maison mauresque, Tartarin s'arrêta très étonné. Le jour tombait, la rue était déserte. Par la porte basse en ogive que la négresse avait oublié de fermer, on entendait des rires, des bruits de verre, des détonations de bouchons de champagne, et dominant tout ce joyeux vacarme, une voix de femme qui chantait joyeuse et claire. « Eh, petit Marco la belle, la danse aux salons en fleurs. »« Trou de Dieu !» fit le Tarasconnais en pâlissant, et il se précipita dans la cour. « Malheureux Tartarin, quel spectacle l'attendait !» Sous les arceaux du petit cloître, au milieu des flacons, des pâtisseries, des coussins épars, des pipes, des tambourins, des guitares, bâilla debout, sans veston bleu, ni corselet, rien qu'une chemisette de gaze argentée et un grand pantalon rose tendre, chantait Marco la belle, avec une casquette d'officier de marine sur l'oreille, à ses pieds sur une natte gavée d'amour et de confiture, Barbassou, l'infâme capitaine Barbassou, se crevait de rire en l'écoutant. L'apparition de Tartarin, hâve, maigri, poudreux, les yeux flamboyants, la chéchia hérissée, interrompit tout net cette aimable orgie turco-marseillaise. Baïa poussa un petit cri de levrette effrayée et se sauva dans la maison. Barbassou, lui, ne se troubla pas, et riant de plus belle, « Eh bien, monsieur Tartarin, qu'est-ce que vous en dites ? Vous voyez bien que le savait le français !» Tartarin de Tarascon s'avança furieux. « Capitaine !»« Du goulique vangue, mon boun !» cria la mauresque, se penchant de la galerie du premier, avec un joli geste canaille. Le pauvre homme atterré se laissa choir sur un tambour. Sa mauresque savait même le marseillais. « Quand je vous disais de vous méfier des Algériennes, » fit sentencieusement le capitaine Barbassou, « c'est comme votre prince monténégrin. » Tartarin releva la tête. « Ah, vous savez où est le prince ? Oh, il n'est pas loin, Il habite pour 5 ans la belle prison de Mustapha. Le drôle s'est laissé prendre la main dans le sac. Du reste, ce n'est pas la première fois qu'on le met à l'ombre. Son Altesse a déjà fait 3 ans de maison centrale quelque part. Et tenez, je crois même que c'est à Tarascon.
À Tarascon ?
S'écria Tartarin, subitement illuminé. C'est donc ça qu'il ne connaissait qu'un côté de la ville. Et sans doute, Tarascon vu de la maison centrale. Ah, mon pauvre monsieur Tartarin, il faut joliment ouvrir l'œil dans ce diable de pays, sans quoi on est exposé à des choses bien désagréables. Ainsi, votre histoire avec le médecin. Quelle histoire? Quel médecin? Eh, t'es pardi, le médecin d'en face, qui faisait la cour à Baïa, à l'Akbar, a raconté l'affaire l'autre jour, et tout Alger en rit encore. C'est si drôle, ce médecin qui, du haut de sa tour, tout en chantant ses prières, faisait sous votre nez des déclarations à la petite et lui donnait des rendez-vous en invoquant le nom d'Allah. Mais c'est donc tous des gredins dans ce pays, hurla le malheureux Tarasconnais. Barbassou eut un geste de philosophe. Mon cher, vous savez, les pays neufs, c'est égal si vous m'en croyez, vous retournerez bien vite à Tarascon. Retourner, c'est facile à dire, l'argent. Vous ne savez donc pas comme ils m'ont plumé là-bas dans le désert. Que cela ne tienne, fit le capitaine en riant. Le zouave part demain, et si vous voulez, je vous rapatrie. Ça vous va-t-il, collègue? Alors, très bien. Vous n'avez plus qu'une chose à faire. Il reste encore quelques fioles de champagne, une moitié de croustade. Allez, asseyez-vous là, et sans rancune. Après la minute d'hésitation que lui commandait sa dignité, le Tarasconnais prit bravement son parti. Il s'assit, on trinqua. Baïa, redescendu au bruit des verres, chanta la fin de Marco la Belle, et la fête se prolongea fort avant dans la nuit. Vers 3 heures du matin, la tête légère et le pied lourd, le bon Tartarin revenait d'accompagner son ami le capitaine, lorsqu'en passant devant la mosquée, le souvenir du médecin et de ses farces le fit rire, et tout de suite une belle idée de vengeance lui traversa le cerveau. La porte était ouverte, il entra, suivi de longs couloirs tapissés de nattes, monta encore, et finit par se trouver dans un petit oratoire turc où une lanterne en fer découpé se balançait au plafond, brodant les murs blancs d'ombres bizarres. Le médecin était là, assis sur un divan, avec son gros turban, sa pelisse blanche, sa pipe de mostaganem, et devant un grand verre d'absinthe fraîche, qu'il battait religieusement, en attendant l'heure d'appeler les croyants à la prière. À la vue de Tartarin, il lâcha sa pipe de terreur. « Pas un mot, curé !» fit le Tarasconnais, qui avait son idée. « Vite, allez, ton turban, ta pelisse !» Le curé turc, tout tremblant, donna son turban, sa pelisse, tout ce qu'on voulut. Tartarin s'en affubla et passa gravement sur la terrasse du minaret. La mer luisait au loin. Les toits blancs étincelaient au clair de lune. On entendait dans la brise marine quelques guitares attardées. Le médecin de Tarascon se recueillit un moment, puis levant les bras, il commença à psalmodier d'une voix suraiguë. « Allah, Allah, Mahomet est un vieux farceur. L'Orient, le Coran, les Bachagas, les Lions, les Mauresques, Tout ça ne vaut pas un viennoise, il n'y a plus d'auteur, il n'y a que des carotteurs. Vive Tarascon! Et pendant qu'en un jargon bizarre, mêlé d'arabe et de provençal, l'illustre Tartarin jetait aux quatre coins de l'horizon, sur la mer, sur la ville, sur la plaine, sur la montagne, sa joyeuse malédiction tarasconnaise, la voix claire et grave des autres médecins lui répondait, en s'éloignant de minaret en minaret, et les derniers croisants de la ville haute se frappaient dévotement la poitrine. 8. Tarascon, Tarascon. Midi. Le zouave chauffe, on va partir. Là-haut, sur le balcon du café Valentin, messieurs les officiers braquent la longue vue et viennent, colonel en tête, par rang de grade, regarder l'heureux petit bateau qui va en France. C'est la grande distraction de l'état-major. En bas, la rade étincelle. La culasse des vieux canons turcs enterrés le long du quai flambe au soleil. Les passagers se pressent. Biscris et Mahonnet entassent les bagages dans les barques. Tartarin de Tarascon, lui, n'a pas de bagages. Le voici qui descend de la rue de la Marine par le petit marché plein de bananes et de pastèques, accompagné de son ami Barbassou. Le malheureux Tarasconnais a laissé sur la rive du bourg sa caisse d'armes et ses illusions. Et maintenant, il s'apprête à voyager, à voguer vers Tarascon, les mains dans les poches. À peine vient-il de sauter dans la chaloupe du capitaine, qu'une bête essoufflée dégringole du haut de la place et se précipite vers lui en galopant. C'est le chameau. Le chameau fidèle qui, depuis 24 heures, cherche son maître dans Alger. Tartarin, en le voyant, change de couleur et feint de ne pas le connaître. Mais le chameau s'acharne. Il frétille au long du quai. Il appelle son ami et le regarde avec tendresse. « Emmène-moi, » semble dire son œil triste. « Emmène-moi dans la barque, loin, bien loin. » De cet Arabie en carton peint, de cet Orient ridicule, plein de locomotives et de diligences, où, dromadaire déclassé, je ne sais plus que devenir. Tu es le dernier Turc, je suis le dernier chameau. Ne nous quittons plus, ô mon Tartarin. Est-ce que ce chameau est à vous ? Demande le capitaine. « Oh, pas du tout !» répond Tartarin, qui frémit à l'idée d'entrer dans Tarascon avec cette escorte ridicule. Et reniant impudemment le compagnon de ses infortunes, il repousse du pied le sol algérien et donne à la barque l'élan du départ. Le chameau flaire l'eau, allonge le cou, fait craquer ses jointures, et s'élançant derrière la barque à corps perdu, il nage de conserve vers le zouave, avec son dos bombé, qui flotte comme une gourde, et son grand col dressé sur l'eau en éperon de trirème. Barque et chameau viennent ensemble se ranger au flanc du paquebot. « À la fin, il me fait peine, ce dromadaire, » dit le capitaine Barbassou, tout ému. « J'ai envie de le prendre à mon bord. En arrivant à Marseille, j'en ferai hommage au jardin zoologique. » On hissa sur le pont à grand renfort de palans et de cordes le chameau alourdi par l'eau de mer, et le zouave se mit en route. Les 2 jours que dura la traversée, Tartarin les passa tout seul dans sa cabine, non pas que la mer fût mauvaise ni que la chéchia eût trop à souffrir, mais le diable de chameau, dès que son maître apparaissait sur le pont, avait autour de lui des empressements ridicules. Vous n'avez jamais vu un chameau afficher quelqu'un comme ça. D'heure en heure, par les hublots de la cabine où il mettait le nez quelquefois, Tartarin vit le bleu du ciel algérien pâlir, puis enfin un matin, dans une brume d'argent, il entendit avec bonheur chanter toutes les cloches de Marseille. On était arrivé. Le zouave jeta l'ancre. Notre homme, qui n'avait pas de bagages, descendit sans rien dire, traversa Marseille en hâte, craignant toujours d'être suivi par le chameau, et ne respira que lorsqu'il se vit installé dans un wagon de troisième classe, filant bon train sur Tarascon. Sécurité trompeuse. À peine à deux lieues de Marseille, voilà toutes les têtes aux portières, on crie, on s'étonne. Tartarin, à son tour, regarde, et qu'aperçoit-il? Le chameau, monsieur, l'inévitable chameau qui détalait sur les rails, en pleine croc, derrière le train, et lui tenant pied. Tartarin, consterné, se rencogna en fermant les yeux. Après cette expédition désastreuse, il avait compté rentrer chez lui incognito, mais la présence de ce quadrupède encombrant rendait la chose impossible. Quelle entrée il allait faire, bon Dieu! Pas le sou, pas de lion, rien, un chameau. Tarascon, Tarascon! Oh, il fallut descendre. Oh, stupeur! À peine la chéchia du héros apparut dans l'ouverture de la portière qu'un grand cri s'éleva. « Vive Tartarin !» fit trembler les voutres vitrées de la gare. « Vive Tartarin ! Vive le tueur de Lyon !» Et des fanfares, des chœurs d'Orphéon éclatèrent. Tartarin se sentit mourir. Il croyait à une mystification, mais non ! Tout Tarascon était là, chapeau en l'air et sympathique. Voilà le brave commandant Bravida, l'armurier Costecalde, le président, le pharmacien et tout le noble corps des chasseurs de casquettes qui se pressent autour de son chef et le portent en triomphe tout le long des escaliers. Singuliers effets du mirage. La peau du lion aveugle envoyée à Bravida était cause de tout ce bruit. Avec cette modeste fourrure, exposée au cercle, les Tarasconnais, et derrière eux, tout le midi, s'étaient montés la tête. Le sémaphore en avait parlé. On avait inventé un drame. Ce n'était plus un lion que Tartarin avait tué. C'était 10 lions, 20 lions, une marmelade de lions. Aussi Tartarin, débarquant à Marseille, y était déjà illustre sans le savoir, et un télégramme enthousiaste l'avait devancé de 2 heures dans sa ville natale. Mais ce qui mit le comble à la joie populaire, ce fut quand on vit un animal fantastique, couvert de poussière et de sueur, apparaître derrière le héros et descendre à cloche-pied l'escalier de la gare. Tarascon crut un instant sa Tarasque revenue. Tartarin rassura ses compatriotes. « C'est mon chameau, » dit-il. Et déjà, sous l'influence du soleil tarasconnais, ce beau soleil qui fait mentir ingénument, il ajouta en caressant la bosse du dromadaire. « Oh, c'est une noble bête. Elle m'a vu tuer tous mes lions. » Là-dessus, il prit familièrement le bras du commandant, rouge de bonheur, et, suivi de son chameau, entouré des chasseurs de casquettes, acclamé par tout le peuple, il se dirigea paisiblement vers la maison du Baobab, et tout en marchant, il commença le récit de ses grandes chasses. « Figurez-vous, disait-il, qu'un certain soir, en plein Sahara,